partager des bonnes choses, une bonne nouvelle, encourageant, édifiant, qui va nous préparer à faire la volonté de Dieu dans ces jours si merveilleux qu'on vit ici sur la terre. Mais ici, à la vie comblée, il y a quelque chose que nous aimons faire avant de recevoir la parole, parce que nous croyons que la parole de Dieu, la Bible, est inspirée de Dieu. C'est un livre surnaturel. On dirait vraiment la Bible contient les pensées de Dieu. Ça nous révèle la volonté de Dieu. Et la parole dit même que sa parole est pour toujours établie dans les cieux. Amen. Les gens peuvent brûler ce livre, ils peuvent mettre ça dans la poubelle, mais la parole spirituelle de Dieu est pour toujours établie dans les cieux. Qu'est-ce que nous avons ici sur papier? Ça nous révèle la parole véritable de Dieu. Amen. Donc, on va faire cette déclaration parce que la Bible nous enseigne que ce que nous disons avec notre bouche et ce que nous croyons dans notre cœur s'accomplit. Donc, en préparant notre cœur pour la parole, on va dire, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, la semaine passée, nous avons commencé une série de messages sur la fin des temps. Et je crois vraiment que c'est une chose appropriée. C'est le moment pour. Et ça fait des années que j'avais à cœur de faire ce genre de série de messages, mais j'ai jamais eu vraiment la paix dans mon cœur que c'était le bon timing. Mais là, depuis quelques semaines, je savais vraiment, j'étais convaincu que c'était la volonté de Dieu pour nous en tant qu'Église de regarder ce que la Bible dit concernant la fin des temps. Il y a beaucoup de confusion. Vous pouvez voir aujourd'hui toutes sortes de choses qui sont écrites à ce sujet. Et il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans la confusion, même des chrétiens des fois. Ils disent les choses, ils enseignent les choses que la Bible ne dit pas forcément. Et ça amène la confusion, la peur et la crainte. Et une chose que je vais dire tout au début, et je vais le répéter dans les semaines à venir. Quand nous enseignons sur la fin des temps, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et pour ceux qui sont en amour avec lui, et pour ceux qui marchent droit dans le Seigneur, vous ne devrez jamais avoir peur. Vous ne devrez jamais quitter la salle avec une inquiétude ou quoi que ce soit. Au contraire, si nous enseignons bien qu'est-ce que la Bible dit à propos des fins des temps, vous allez partir d'ici avec une nouvelle joie, avec une nouvelle force, avec le goût de vivre pour le Seigneur comme jamais auparavant et avec le goût de partager une bonne nouvelle avec votre entourage. Amen. Et ça, c'est le but. C'est pas le doomsday, comme on dit en anglais. C'est vraiment une bonne nouvelle. Tout le monde dit une bonne nouvelle. Alléluia. C'est une bonne nouvelle que nous prêchons et que nous allons voir aujourd'hui. Comme on a vu la semaine passée en Romains 13, 11, la Bible dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Mais on va aller ce matin à Matthieu chapitre 16. Et je vous invite, je vous encourage à prendre vos Bibles ce matin. Si vous n'avez pas une Bible, vous allez voir à l'intérieur de votre bulletin une feuille avec presque tous les versets de la parole que nous allons voir ensemble. Et c'est bon d'avoir ces feuilles, c'est bon de prendre les notes, mais c'est bon aussi d'amener votre Bible, si c'est possible, amener une Bible aussi. Et vous pouvez souligner les choses dans votre propre Bible, et ça va être bon. Matthieu chapitre 16, nous allons lire quelque chose que Jésus a dit en versets 2 et 3. Matthieu chapitre 16, Jésus leur répondit. Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que Jésus est en train de parler aux personnes religieuses en disant, écoute, vous savez, dans le naturel, vous pouvez discerner le temps naturel. Vous voyez les cieux, vous voyez les nuages, vous voyez la couleur même dans l'air, qu'est-ce qui se passe. Vous êtes capable de prédire et de faire vraiment une prédiction de météo. Mais qu'est-ce que vous ne savez pas, c'est de discerner les temps. Et la façon qu'il a dit, c'était presque dans un reproche en disant, écoutez, vous êtes si intelligent pour discerner le temps naturel, mais vous êtes si lent à comprendre que vous n'avez pas dans le domaine de l'esprit. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de discerner les temps que nous vivons. On a besoin de savoir quelle heure il est dans l'esprit. On a besoin de savoir, combien de vous pouvez me dire, quel jour est-ce qu'on est aujourd'hui? C'est quoi la date aujourd'hui? Dans le naturel, c'est le 30 mars, on est dimanche. Il est 11h-6, OK? Mais dans l'esprit, comme on a vu la semaine passée, dans un sens, on est rendu à vendredi. Et samedi, c'est vraiment la journée du repos, c'est la journée de règne millénaire de Jésus-Christ. On est vraiment rendu à vendredi. Et qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? On a raison de croire qu'on est pas mal tard et pas mal avancé. On est probablement rendu à vendredi soir, même la nuit de vendredi, peut-être 10h ou 11h le soir. Amen? On peut discerner les temps. Jésus revient bientôt. Et on va lire un autre passage en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 5. Regardons, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 5. Et nous allons voir comment on peut discerner les temps aujourd'hui. Tout le monde est là, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et soulignez cette partie-là, comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas? On voit que Jésus, le jour du Seigneur, va venir comme un voleur dans la nuit. Et on a souvent entendu cela, que personne ne sait le jour ni l'heure, on va voir cela tantôt. Mais regardons bien verset 4, parce que ça, c'est le verset qui s'adresse à nous, qui sommes déjà dans le Seigneur, nous qui sommes déjà enfants de Dieu. Mais vos frères, est-ce qu'il y a des personnes ici ce matin qui sont des frères ou des sœurs dans le Seigneur Jésus? Levez la main. Ça, c'est la partie qui nous concerne. Et il s'est marqué, vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Voyez-vous qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pour ceux qui ne sont pas des frères et des sœurs, le jour du Seigneur va les surprendre comme un voleur dans la nuit. Oh! Aucune idée qu'il venait. Mais pour nous qui sommes des frères et des sœurs, on n'est pas supposé d'être pris par surprise. Amen? On est supposé d'être vraiment réveillé, sachant que son venue est proche, sachant que ça peut être n'importe quand, n'importe quelle minute, et on est prêt. Amen? Mais pour être prêt, il faut savoir, il faut être convaincu d'abord que Jésus revient. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont convaincus que Jésus revient bientôt? Pourquoi est-ce que vous êtes convaincu? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Si vous n'êtes pas convaincu, vous serez convaincu après aujourd'hui. Amen? Mais il y a quelque chose qu'il faut regarder avant de regarder quelques signes spécifiques de son retour, de son avènement, deuxième avènement. On va voir quelque chose que la Bible nous enseigne. Et c'est dans vos notes, c'est que quelques principes, deux choses que je veux souligner avant de regarder quelques signes spécifiques. C'est que d'abord, personne ne sait le jour ou l'heure de son retour. Amen. La Bible est claire là-dessus. Regardons Matthieu chapitre 24, 36. C'est marqué, pour ce qui est du jour et de l'heure, tout le monde dit le jour et l'heure. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Et le monde aujourd'hui, ça va être la même chose. Jésus va venir. Et la plupart des gens, ils vont être tellement surpris. Ils vont pas savoir qu'est-ce qui se passe. Ça va être une surprise totale pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Amen? Alors, continuons. Et jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, c'est clair que personne ne peut savoir le jour, personne ne peut savoir l'heure. Et donc, si vous écoutez un prédicateur qui vous donne un jour et qui vous donne une heure en disant tel jour, de telle heure Jésus va revenir, vous pouvez savoir tout de suite que la personne est dans le champ. Hein? Champ patate, oui, c'est ça. En autre mot, il ne sait pas de quoi il parle. Amen? Parce que la Bible est claire, personne ne sait le jour ni l'heure. Moi, je m'en souviens, en 1988, il y a sûrement d'autres personnes qui vont se rappeler de cette histoire aussi. Mais en 1988, Tania et moi, on était dans le ministère à temps plein, mais on voyageait à temps plein. Et je pense que c'était le mois de septembre ou... C'était juillet, à août, on était en Europe, en France, on prêchait la bonne nouvelle de Jésus, et puis, mais rendu au mois de novembre, on est revenu à Saint-Louis, et j'étais en train de trier tout le mal que j'ai reçu depuis deux, trois mois, et c'était en pile, laisse-moi vous dire, mais en fouillant là-dedans, j'ai trouvé un petit livre que quelqu'un m'a envoyé, et c'était 80 raisons pour lesquelles nous savons que Jésus va revenir en 88. Alors donc, ils ont précis une date, c'était le mois de septembre. Et ils avaient 80 raisons pour prouver que Jésus-Christ allait revenir telle date, le mois de septembre, 88. Mais là, le problème, c'est qu'on était rendu au mois de novembre. Alors donc, j'ai dit, « Oh, Tania, on a manqué l'enlèvement! Regarde! » Mais... vois-tu, c'est fou, hein? Mais savez-vous qu'il y avait des centaines et des milliers de chrétiens aux États-Unis même qui ont eu des parties et qui ont eu des soirées de louanges et ils attendent, tout le monde s'attendait que Jésus allait revenir. Donc, tout le monde avait des réunions spéciales juste pour attendre le venu du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui est pire? C'est qu'il y a un paquet du monde qui sont allés magasiner quelques semaines avant. Avec les cartes de crédit, en disant, hey, écoute, Jésus revient, je n'aurai pas besoin de payer la facture. Stupide, n'est-ce pas? Ils ont juste besoin de lire la Bible, et la Bible dit, personne ne sait ni le jour, ni l'heure. C'est le Père seul qui le sait. Amen? Donc, ne soyez pas distrait ou séduit par quelqu'un qui dirait qu'il sait quand Jésus va venir exactement. Pourtant, comme c'était le cas dans le temps de Noé. Noé lui-même ne savait pas exactement quand Dieu a dit à Noé de commencer à construire l'arche. Il ne savait pas exactement quand le déluge allait commencer. Mais il savait qu'il s'en venait. Amen. Il savait que c'était proche. Et le Seigneur lui a montré exactement quand entrer dans l'arche. Et le Seigneur lui-même a fermé la porte. Amen. Donc, c'est la même chose ici avec l'avènement du Seigneur Jésus. Nous ne savons pas le jour, nous ne savons pas l'heure, mais nous savons, et ça c'est la chose que j'écris dans vos notes, nous pouvons reconnaître par contre la saison de son retour. Amen? On ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure, mais on sait la saison de son retour. On peut être pas mal certain que, même si je ne sais pas si c'est un jeudi, un vendredi, si c'est en mars ou avril ou septembre, je ne sais pas exactement quel jour, quelle heure. Je sais qu'il s'en vient bientôt. La saison est là. La saison est proche. Amen. Son retour est proche. Et on peut le savoir. Et aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs signes qui nous montrent que c'est vraiment la saison de son retour. Amen. Alléluia. En fait, Jésus a dit en Luc 21-28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Donc, il y a certaines choses que Jésus a dit et certaines choses que nous voyons dans les épîtres que les apôtres ont écrites, certaines choses qui sont les signes fiables pour nous montrer que nous sommes proches à son retour. Amen. Voulez-vous savoir quels sont quelques-uns de ces signes? On ne va pas parler à fond de toutes, mais on va vous donner quelques-uns. Premier signe qu'on va voir aujourd'hui, c'est le signe du troisième jour. Le signe du troisième jour, c'est quoi ça? Laisse-moi vous expliquer juste vite, vite. En Osée, chapitre 6, versets 1 et 2, la parole de Dieu dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Et il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Et nous avons vu la semaine passée que dans les dispensations de Dieu, il y avait, ça fait à peu près 6000 ans que l'être humain existe sur la terre, depuis que Dieu a créé Adam et Ève. Et qu'est-ce que nous voyons? C'est que Dieu avait un plan pour son peuple Israël. Et Dieu a promis même de rétablir le royaume d'Israël, la nation d'Israël. Amen. Un jour, Jésus-Christ va venir et il va régner sur le trône de David à Jérusalem. Jérusalem va être la capitale du monde. Amen. Et le monde entier va être vraiment, vraiment suivi à Jérusalem et le règne du roi des rois et du seigneur des seigneurs Jésus-Christ. Jésus va venir et il va rétablir le royaume d'Israël. Mais quand est-ce qu'il va le faire? Il a dit que c'est dans le troisième jour. Dans le troisième jour. Et nous savons que la Bible dit qu'avec le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Ça fait combien d'années depuis que Jésus est venu et qu'il est mort et enseveli et ressuscité? Ça fait à peu près 2000 ans. C'est-à-dire, pour le Seigneur, deux jours. On sait bien que notre calendrier que nous avons aujourd'hui, ça se peut bien. Tous les érudits sont d'accord que ça se peut qu'on ait 5 ans en avance ou même 5 ans en arrière. Donc, on a un petit jeu. On ne sait pas si aujourd'hui, par exemple, si on est vraiment 2008 ou si on est avant. Amen. Donc, c'est quelque chose d'intéressant parce que on voit dans la parole de Dieu que Dieu donne une période d'à peu près 2 jours pour l'âge de grâce. Et à peu près ces 2 jours, dans le troisième jour, le règne d'Israël et la nation d'Israël va être relevée et rétablie. Amen. Donc, peu importe comment vous voyez, on voit que 2000 ans, plus ou moins, sont déjà passés. On est vraiment proche de la saison de son retour. Amen. On ne peut pas continuer pour des milliers et des milliers d'années de plus parce que Dieu n'a donné que 7 jours pour accomplir son plan. Amen. Dieu merci, c'est vendredi. Mais là, depuis, on voit, dans 2 jours, nous serons guéris, mais le troisième jour, nous serons relevés. Donc, on a le signe du troisième jour. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Mais juste sachez que 2 jours sont déjà passés ou presque passés au niveau du temps de Dieu. Amen. Un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour avec le Seigneur. Donc, on a le signe du troisième jour. On a aussi le signe numéro 2, le signe du figuier et les autres arbres. Vous voulez dire quoi? On va lire en Luc chapitre 21. Regardons. Le figuier et les autres arbres. Et Jésus parle en verset 29 et il dit, et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. OK? Comment on dit le figuier? Et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Quand vous voyez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, et voici qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez. C'est que le peuple de Dieu, les Juifs, à cause de leur désobéissance, ils ont été amenés captifs en Babylone et ils ont été amenés captifs par les Assyriens aussi. Il y avait un jugement de Dieu. Mais quand même là, on voit que plus ou moins, le peuple de Dieu ont quand même prospéré. Même on voit Daniel qui est en train de prospérer en captivité. On voit que Dieu a quand même prospéré son peuple. Mais ce que nous savons, c'est que dans les derniers jours, et Jésus l'a prophétisé, Jésus l'a dit, que dès que le Messie a été envoyé et que le Messie a été rejeté, on voit que Dieu était pour envoyer un autre jugement à Israël. Et en 70, l'année 70, okay, du premier siècle, nous savons que Jérusalem fut détruite. Et qu'est-ce que nous savons? Et nous savons tous que les Israélites ont été vraiment dispersés partout dans les quatre coins de la terre. Vous êtes d'accord? Il y avait des Juifs un peu partout. Il y avait beaucoup de Juifs en Russie. Aujourd'hui, c'est Russie. Des Juifs partout. Et depuis ce temps-là, il n'y avait pas vraiment une patrie, une place où ils pourraient dire « on est chez nous ». La nation d'Israël comme telle n'existait pas vraiment. Sauf que il y a quelque chose qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, le figuier, alléluia, le figuier, parce que le figuier est un symbole, on va voir tantôt, le figuier est un symbole de la nation d'Israël, et le figuier a commencé à pousser. Pourquoi? Parce qu'en 1948, la nation d'Israël a pris naissance, renaissance, on peut dire. Amen? Et le peuple juif a commencé à revenir de partout. Amen? En 1948, le figuier a commencé à pousser. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous dis la vérité, cette génération ne passera pas. Amen? Donc, on voit vraiment... Si on n'avait pas autre chose, juste le fait qu'en 1948, la nation d'Israël a commencé à repousser, le figuier a commencé à repousser, ça c'est un des plus grands signes que l'été est proche et que son retour est proche. Nous sommes dans la génération qui va voir le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen? Ce n'est pas forcément une génération de 40 ans. Mais c'est la génération qui a vu la renaissance d'Israël vont voir aussi le retour du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? C'est le troisième jour et en plus, le figuier pousse.
Alléluia!
Alléluia. Jésus revient bientôt. Et on voit, et juste pour donner un autre verset pour souligner ce point, en Jérémie 24, 5 et 6. Verset 5 dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figures, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda, que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays de Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays, je les établirai et ne les détruirai plus, je les planterai et ne les arracherai plus. » C'est le figuier, c'est la nation d'Israël. Et savez-vous que la journée même que la nation d'Israël fut renée, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les nations arabes sont venues pour attaquer et pour détruire Israël. La journée même, Israël n'avait même pas une armée. Juste quelques personnes qui avaient combattu contre les Anglais. Mais surnaturellement, Dieu a sauvé, il a protégé la nation d'Israël. Surnaturellement, quand toutes les armées arabes sont venues contre Israël, Dieu les a délivrés. Amen. Dites qu'est-ce que vous voulez. Dites qu'est-ce que vous voulez. C'est peut-être pas trop correct politiquement, mais de le dire. Mais Dieu a quand même choisi le peuple juif. Est-ce qu'ils ont toujours raison? Non, ils ont souvent tort. Mais quand même, Dieu a dit que ceux qui bénissent Abraham vont être bénis. Et ceux qui maudissent Abraham vont être maudits. Et aujourd'hui, laisse-moi vous dire, les gens parlent de la paix, créer un État de Palestine et tout. Laisse-moi vous dire, des gens de Palestine ne seront jamais contents d'exister aussi, à côté d'Israël, parce que leur but, leur seul but, pas tout le monde, il y a quelques-uns, bien sûr, qui n'ont pas compris, mais le but principal des Arabes, c'est vraiment la destruction totale, de pousser Israël dans la mer. Et leurs enfants, quand ils sont entraînés, aujourd'hui, les terroristes, les tout-petits qui sont supposés d'être les kamikazes, ils chantent et disent que vraiment, le but de leur vie, c'est de devenir une bombe humaine, et leur but, c'est de pousser Israël dans la mer. Mais Israël ne sera pas poussé dans la mer. Amen? Là, je sais que ça va sur l'Internet et les gens vont dire, « Hey, mais lui, regarde-lui. Est-ce que je suis contre les Arabes? Non. Est-ce que j'aime les Arabes? Oui. Beaucoup. Est-ce qu'on a besoin de prier pour eux? Oui. Mais quand même, je dis qu'est-ce que la Bible dit. La Bible est claire. Ils ne veulent pas qu'Israël existe. Dès que Israël fut rené, ils ont essayé de la détruire et ils ont essayé plusieurs fois depuis. On sait ce qui s'est passé dans la guerre de 6 jours. Dieu a donné une intervention surnaturelle pour sauver le peuple d'Israël et la nation d'Israël. Dieu va réaliser son plan pour la nation d'Israël. Amen. Alléluia. Je n'ai pas planifié de dire tout cela, mais c'est bon quand même, n'est-ce pas? Mais on sait, la nation d'Israël pousse et on sait que Jésus revient bientôt. Amen. Le signe des temps. Et encore, faites attention, ne mettez pas les paroles dans ma bouche. J'aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les enfants d'Ismaël. Vous êtes d'accord? Jésus est mort pour les Arabes. Et moi, je pense qu'on devrait être prêt à mourir pour eux aussi. On devrait être prêt à donner nos vies pour qu'ils puissent venir à la connaissance de la vérité. On n'a rien contre eux. On n'est pas raciste du tout. Mais je lis qu'est-ce que la Bible dit va avoir lieu et je te dis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On n'est pas raciste. On n'est pas contre les Arabes. Oh non. Au contraire. On veut qu'ils soient sauvés. On veut que tout le monde vienne à la repentance. Amen. Et on les aime. Et moi, j'ai beaucoup des amis même. J'ai eu des voisins, des musulmans. Et j'aime les musulmans. De tout mon cœur. J'ai un cœur pour le monde musulman. Et je pense que l'Église a besoin d'avoir un cœur pour ce monde aussi. Il y a tellement de personnes qui souffrent sous une fausse religion. Amen. Alléluia. Donc, ne mettez pas les paroles dans ma bouche en disant qu'on est anti-arabe. Non. On est juste pour Dieu. Amen. Alléluia. Le troisième signe, c'est le signe des temps difficiles. Le signe des temps difficiles. Regardons 2 Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrates, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Moi, je pense que ça, tout se résume dans cette phrase-là. Hein? Aimant le plaisir plus que Dieu. Et en l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Combien de vous êtes d'accord qu'on vient de lire une bonne description de notre société aujourd'hui? On voit les personnes égoïstes. Ils s'en fichent des autres. En général. Ils sont les gens cruels. On a juste à regarder, écouter les nouvelles et on voit. On a toujours eu des temps difficiles sur la terre. Mais la Bible dit que dans les fins des temps, les choses vont s'empirer. Et c'est ça que nous voyons, n'est-ce pas? Donc quand on voit toute la confusion, tous les crimes, comme Jésus a dit, comme c'était dans le temps de Noé, ça serait le même à l'avènement du Fils de Dieu. Dans le temps de Noé, en Genèse 6, nous voyons que les pensées des hommes étaient continuellement méchants. C'était continuellement la violence dans leurs pensées. Et c'est ça que nous voyons de plus en plus dans notre société. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Et nos enfants ne sont pas obligés d'être les enfants rebelles. Vous êtes d'accord? Les enfants de Dieu ne sont pas obligés d'être égoïstes. Et en fait, c'est ça qui va faire la différence. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et le monde va voir la différence. Quand tout le monde est égoïste autour d'eux, ils vont voir les personnes, les membres de la famille de Dieu qui sont prêts à donner et qui cherchent à donner plus qu'à recevoir. Ils vont voir les personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour aller dans les autres pays. Ils vont voir les personnes qui sont remplies de la grâce et l'amour et l'onction de Dieu, et la lumière va briller et un grand nombre de personnes vont venir à Jésus-Christ. Donc encore, le message n'est pas un message négatif, mais la vérité, c'est que les ténèbres vont devenir de plus en plus noires, mais l'Église va être remplie de plus en plus de gloire. Amen? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc, c'est pas négatif. Mais quand même, on sait que les temps difficiles vont venir, et encore des temps difficiles. Les guerres, les bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre, toutes ces choses. Et intéressant, il y a quelques années, j'ai vu une statistique au niveau des tremblements de terre. Le dernier siècle, on a eu plus de tremblements de terre que dans n'importe quelle période d'histoire. Il y a des choses comme ça. On voit les gémissements. On voit les choses qui commencent à brasser. Et on voit que le monde des ténèbres n'est pas content. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons lu la fin de l'histoire et nous gagnons.
Amen.
Et peu importe qu'est-ce qui se passe autour de nous, peu importe la tempête autour de nous, et nous allons voir dans quelques semaines, nous n'avons rien à craindre. Il y a des jugements qui vont venir sur la terre. Il y a des choses vraiment effrayantes qui vont venir sur la terre. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ n'ont absolument rien à craindre. Quand le jugement est venu sur Noé, Noé n'avait rien à craindre. Il était protégé dans l'arche. Et nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, en lui, et nous serons protégés aussi. Amen? Ça va être la même chose pour nous. Alléluia. Donc, numéro 4, c'est le signe de la technologie et le transport. Moi, je crois que c'est un signe des temps. Technologie et le transport. Pourquoi? La Bible dit quelque chose en Daniel 12, 4. Si vous avez une version seconde, vous allez voir, c'est un peu différent, mais vraiment, j'ai regardé plusieurs versions. Dans la version Darby de ce verset, c'est le seul verset que j'ai trouvé que je crois que c'est traduit vraiment plus droit et juste de ce verset. Parce que c'est marqué ici, verset 4 de Daniel 12. « Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. » Je sais que dans la seconde, c'est marqué « plusieurs vont le lire et vont, leur connaissance vont être augmentée. » Mais le mot en hébreu pour, c'est traduit en seconde, « lire », dans le dernier, c'est marqué « courons ça et là ». Et j'ai regardé, j'ai checké tout l'Ancien Testament, et à chaque place où ce mot est utilisé, ça veut dire toujours « pas courir » ou « courir ça et là ». C'est seulement en Daniel où c'est marqué « lire ». Sauf qu'en Darby, c'est marqué « courir ça et là ». Et je pense qu'on a deux significations de ce verset. Oui, dans un sens, Daniel a scellé les paroles de cette prophétie pour les temps de fin, pour que ceux qui voient la prophétie vont pouvoir parcourir la prophétie et la connaissance de ces choses vont augmenter. Mais je pense aussi que nous avons une signification qui parle en général du temps des fins, que dans les derniers jours, les gens vont courir ça et parcourir ça et là, et la connaissance va augmenter. N'est-ce pas vrai aujourd'hui? Aujourd'hui, toi, tu peux aller à Dorval, prendre un avion, et dans 6 heures, vous pouvez être en France. Impossible à l'époque de la Bible. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des nouvelles en direct de ce qui se passe en Irak. Impossible. Et il y a des choses, autrefois, en Apocalypse, on voit que quand Jésus va revenir, que le monde entier, les yeux du monde entier vont voir. Et les gens ont dit, mais ça se peut pas. Comment est-ce que le monde entier peut voir? C'est facile. Une émission en direct par satellite, tout le monde va pouvoir voir Jésus venir. Amen? Même les choses concernant l'Antichrist et la marque de la bête. Vous savez, la Bible dit qu'à un moment donné, pendant la tribulation, les gens ne seront pas capables d'acheter ni vendre sans avoir reçu la marque de la bête. On va parler de ça une autre fois. on n'a rien à craindre. Vous n'allez jamais voir la marque de la bête vous-même, si vous êtes en Jésus. Amen. Mais quand même, qu'est-ce que nous voyons, c'est que la technologie aujourd'hui est en place. La technologie n'est pas méchante, mais c'est là et toutes les prophéties vont être accomplies. Amen. Aujourd'hui, on peut mettre une petite chose dans une auto ou même dans un être humain. Et par satellite, on peut savoir exactement où il est. Amen. Les autos de luxe aujourd'hui, ils viennent tous avec un bouton parce qu'ils ont les systèmes de GPS, Global Positioning, je ne sais pas comment le dire, le positionnement global par satellite. Mais si quelqu'un s'est fait voler une auto, tout de suite, les polices vont voir exactement là où l'auto va. Personne ne va être capable de se cacher dans le temps de la tribulation. Hein? Quelque chose, hein? Là, aujourd'hui, tu peux juste, si tu tombes en panne, tu pèses un bouton et dans un instant, oh, tu es en direct avec quelqu'un. As-tu besoin d'aide? Oui, hein, je suis tombé en panne. Peux-tu envoyer une remorque? Oui, pas de problème. Ça en vient. Moi, j'ai un téléphone cellulaire ici. Et on va essayer quelque chose. Moi, je suis au Québec, vous êtes d'accord? Mais là, je fais un appel en France. Parce que vous savez, on va avoir un invité bientôt. Ah! Ça marche pas. Pas drôle. J'avais planifié ça. Mais vous savez, je vais juste dire une chose. On va le faire une autre fois. Mais, parce qu'il dit que le service en Outre-mer, il faut faire une demande spéciale pour faire l'appel. Mais savez-vous, avec ce petit appareil-là, je suis capable de peser sur quelques boutons. Et ça, c'est le téléphone le moins cher sur le marché. Le moins cher sur le marché. Si je veux appeler chez moi, j'ai juste besoin de dire la famille Taylor. Et là, c'est parti. Je suis en communication dans quelques secondes avec ma maison. Mais j'aurais pu, et je l'ai déjà fait, des personnes m'ont appelé de la France, en Outre-mer, et je réponds, et laisse-moi vous dire, c'est quelque chose. Aujourd'hui, je peux être au Québec, et par l'espace, je peux parler instantanément avec n'importe qui, n'importe où dans le monde. Laisse-moi vous dire, on vit dans les derniers jours. C'est une chose que, qu'est-ce que la bonne nouvelle? L'Antéchrist va se servir de toutes ces choses-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons nous en servir aujourd'hui. Amen? Donc, ces choses ne sont pas méchantes. Ces choses sont des outils. Aujourd'hui, je voulais avoir quelques statistiques sur la mission mondiale. Et alors, donc, sur l'Internet, j'ai juste tapé « statistiques mission » et dans un clin d'œil, j'avais toute une liste des choses. Et là, j'ai imprimé une page, 10 pages de Houston au Texas dans quelques secondes. Savez-vous qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui? Jésus a dit cet évangile sera prêché, et ça c'est vraiment le dernier signe qu'on va voir ici, numéro 5, c'est le signe de l'évangélisation des nations. Alléluia! Salut! Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Savez-vous, le plus grand signe des fins de temps, c'est que cet évangile va se prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Toutes les nations vont l'entendre. Et aujourd'hui, avec toute la technologie, avec tous les moyens de transport que nous avons, ça ne va pas prendre longtemps pour finir la tâche, aussi longtemps qu'on est voulant et qu'on est partant. Amen? Dans le fond, c'est ça que ça prend. On sait exactement où sont les groupes des personnes qui n'ont pas entendu l'évangile. Et il y en a. Il y a presque 2 milliards des hommes et femmes et enfants qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Savez-vous? Sur 6 milliards d'hommes et femmes sur la terre, presque 2 milliards n'ont jamais entendu la bonne nouvelle. Mais il y a quelque chose, par exemple. À chaque jour, moi j'ai des statistiques ici, c'est incroyable. Je pense que juste l'année passée, ils ont dit que 120 millions de personnes ont été sauvées. Je pense que j'ai vu ici combien d'églises. Je pense qu'il y a 7000 églises qui sont ouvertes à chaque semaine. À chaque jour, il y a... À chaque jour, le moyen des personnes ajoutées au corps de Christ, dans le monde, à chaque jour, c'est 174 000 personnes par jour. 174 000 personnes par jour viennent au Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi vous dire, avec la technologie que nous avons, avec le transport que nous avons, ça ne prendrait pas longtemps de finir la tâche, de prêcher l'Évangile à chaque nation, et ensuite viendra la fin. Comment est-ce qu'on sait que Jésus est proche? On a juste à ouvrir les yeux. Le troisième jour nous dit qu'il est proche. Amen. Le figuier et les autres arbres, c'est les autres nations. On voit Russie, on voit la Chine, on voit plusieurs pays qui sont en train de se positionner pour les événements de la fin. On voit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous le voyons. Amen. La technologie, le transport, l'évangélisation des nations. Laisse-moi vous dire, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais il reste des choses à faire. C'est vendredi soir et avant de tomber en congé, on a besoin de finir notre travail. Amen. Si on peut avoir quelqu'un, je ne sais pas si Justin est là pour le piano ou non, mais si quelqu'un peut la chercher. On va prier aujourd'hui. Pasteur John Madden va être déçu parce que je lui ai dit que j'allais l'appeler tantôt. Donc, il était prêt à vous souhaiter une bonne journée, de dire qu'il avait hâte de venir la fin. Mais peut-être une autre fois, on peut lui parler. Mais laisse-moi vous dire, Jésus revient bientôt. Et moi, je veux être prêt. Il y a des choses que nous voyons dans la parole de Dieu. Juste pour terminer aujourd'hui, en 2 Pierre chapitre 3, pendant qu'on attend que Jessica vienne pour le piano, on va lire un verset de 2 Pierre chapitre 3. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais nous savons, ce n'est pas comme un voleur pour nous. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite, et votre piété. Est-ce que vous écoutez cela? Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. On va parler de ça dans une autre semaine. À cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des fois des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens, comme celui d'autres écritures pour leur propre ruine. Mais verset 17 dit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, vous qui êtes avertis, vous qui êtes avertis, est-ce que vous êtes avertis? Jésus revient bientôt. Vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir à votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour éternité. Amen. Jésus revient bientôt. Quel genre de personnes devrions-nous être? Comment devrions-nous vivre? Si nous savons que Jésus revient bientôt, ça devrait nous purifier, n'est-ce pas? On ne peut pas vivre dans la débauche. On ne peut pas vivre avec un pied dans le monde et le péché et un pied dans l'Église. Laisse-moi vous dire, Jésus revient, c'est le temps de mettre votre maison en ordre. Amen? Il peut venir aujourd'hui. On ne sait pas. Ça se peut. Ça se peut que c'est dans une semaine, un mois, un an. On ne sait pas exactement. Deux ans. On ne sait pas. Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer votre Sauveur et Seigneur? Est-ce que vous aurez honte à son retour ou est-ce que vous aurez confiance à son retour? Grandissez dans la grâce de Dieu, mais grandissez dans la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des choses dans votre vie, les péchés, les choses qui ne sont pas correctes, si vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, c'est le temps de vous repentir. Amen. C'est le temps de dire non au péché, de dire oui à Jésus. Il revient bientôt. Et je veux pas juste parce que je veux pas perdre mon récompense, ma récompense, mais parce qu'il y a un monde qui souffre et qui a besoin de connaître la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Donc, Père Céleste, au nom de Jésus, nous te remercions pour ces signes que tu nous as donnés, Seigneur. Les indices qui nous montrent que ton retour est proche. On ne peut pas nier le fait, Seigneur, que tu reviens très bientôt. Très bientôt. Avant que tu viennes, on a une œuvre à faire. Pour qu'on puisse faire cette œuvre, il faut que nous soyons les vaisseaux d'honneur. Il faut que nous soyons mis à part, consacrés, séparés. Tu as dit par les prophètes, même dans notre jour, Seigneur, que l'année 2003, ça serait une année de séparation, de consécration et de préparation. Seigneur, c'est le temps pour nous de nous préparer, Seigneur, pour ton retour. Merci, Père Céleste. Avec tous les yeux fermés, à chaque dimanche matin, on aime donner l'occasion pour ceux qui ne sont pas encore sûrs et certains d'être dans la famille de Dieu, de donner leur vie à Jésus. Et si vous êtes ici et vous dites, « Pasteur, je veux que tu pries pour moi, je sais que Jésus est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort pour moi et ressuscité des morts, mais je n'ai pas l'assurance d'être sauvé de mes péchés, je n'ai pas l'assurance d'avoir une place réservée pour moi au ciel. » J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et un Seigneur, c'est un maître, c'est une personne à qui nous obéissons. Si tu es prêt à confesser avec ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, « Pasteur, j'ai besoin de prier cette prière et donner ma vie à Jésus. » Juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de naître de nouveau aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, vous avez déjà donné votre vie à Jésus, mais vous avez besoin de redédier votre vie, une reconsacration, parce que vous savez que vous n'êtes pas en communion avec lui. Vous vous êtes éloigné de Dieu. Si Jésus viendrait maintenant, vous n'êtes pas vraiment sûr et certain que vous êtes prêt. Levez la main aussi, si vous voulez. On va prier. Il y a quelques personnes qui ont levé la main, non? Père, au nom de Jésus, nous te remercions. Alléluia. Père, merci que nous sommes tes enfants. Nous sommes les enfants de lumière. Nous n'avons rien à craindre. Nous vivons les temps difficiles, mais Seigneur, pour l'Église, c'est les temps glorieux. Prie avec moi. Père Céleste, au nom de Jésus, nous nous consacrons à ton service. Aide-nous à mener une vie pure. Nous voulons être prêts à te rencontrer. Au nom de Jésus, que nous vivions dans la lumière du fait que tu reviens bientôt. Au nom de Jésus. Amen. J'ai juste à cœur une autre chose. Si vous êtes ici, vous êtes enfant de Dieu, vous savez que vous êtes né de nouveau, mais vous n'avez jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence initiale de parler notre langue. Dans ces derniers temps, vous avez besoin de cette puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui lèverait la main en disant, « Oui, je veux recevoir selon le don gratuit de Dieu, du salut, je l'ai dit. »